Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 2 mai 94.
Nous allons continuer cette recherche au point de vue de la philosophie du vivant, dans l'axe de la philosophie. Le vivant, c'est celui qui se meut. Faut pas l'oublier. Et le vivant, c'est celui qui est capable de faire que ce qui est extérieur à lui devienne quelque chose qu'il assimile. Et l'assimilation caractérise bien ce qu'est le vivant. Je crois que même ça, avec toutes les découvertes biologiques d'aujourd'hui, demeure. Parce que c'est ça qui caractérise le se movere, se mouvoir. Alors les trois niveaux de la vie, vie végétative, vie de connaissance et d'affectivité sensible, il faut découvrir comment il y a avec la connaissance. Et l'affectivité, ce double mouvement, ce rythme particulier du vivant qui ramène à lui. Quand on assimile, on ramène à soi. Et en même temps, l'affectivité qui nous fait nous porter vers l'autre. Donc, vous voyez que dès que la connaissance apparaît, il y a chez le vivant ce double mouvement, à la fois de ramener à lui et en même temps de se porter vers les autres. La générosité du vivant. Le vivant est généreux. Et le vivant en même temps accapare. Ça, c'est très curieux, ce double mouvement. Parce que ça porte contradictoire. Alors, est-ce que c'est la connaissance qui est première ou est-ce que c'est l'affectivité? Pour Aristote, c'est la connaissance qui caractérise les degrés de vie et donc qui caractérise en premier lieu la vie. Je crois qu'il a raison. Saint Thomas prend ça sans discuter. Nous devons, nous, puisque au point de vue philosophique, l'autorité d'Aristote, c'est la dernière des raisons. On se sert d'Aristote, mais on doit tout repenser. Et on doit tout repenser en tenant compte des découvertes de la biologie moderne. Quand je dis tenir compte, ça ne veut pas dire que ces découvertes déterminent. C'est pour mieux comprendre l'expérience propre que nous avons du vivant. Or, nous avons en premier lieu l'expérience de la connaissance. Et l'affectivité suit toujours la connaissance. Donc, c'est bien l'assimilation qui est première et le don. Être porté vers les autres qui est second. Même dans la vie sensible. Dans la vie sensible, le vivant est tout yeux et tout oreille. Il prend, il assimile. Les uns davantage avec les yeux. C'est vrai, le vivant, il regarde et il prend pour lui. Il capte la lumière. Et ce n'est qu'après qu'il rejette du feu, puisque Platon dit que le regard jette du feu. Il y a des regards méchants. Et des regards qui acceptent, qui sont... Et le regard est, premièrement, il assimile. Et l'affectivité fait qu'on se porte... philosophe, le premier moment où on quitte le sensible et qu'on entre dans l'intelligible, c'est quand même important. Descartes dit cogito. Le cogito de Descartes, c'est quoi? C'est penser. Et penser, c'est signifier. La parole a une signification. La connaissance a une signification. Tandis que la représentation reste du côté de l'imaginaire. Aristote note la difficulté que tous ses prédécesseurs ont eue de passer de l'imaginaire à la pensée. Et ça reste vrai, ça. On peut dire que c'est la très grosse difficulté de beaucoup de philosophes de passer de l'imaginaire à la pensée. On imagine. Oui, beaucoup de personnes, du reste, c'est très curieux dans le langage. J'ai pensé ça. En réalité, c'est pas la pensée, c'est l'imagination. Et dans le langage, on confond. L'imagination joue un rôle très, très étendu dans notre vie. Constant. Parce qu'il faut être déjà très habitué à penser pour dépasser l'imaginaire. La plupart du temps, on reste dans l'imaginaire. Mais quand on se détend, vous rêvez. Et le rêve est imaginaire. C'est pas la pensée du tout. On se représente. Et la télévision augmente l'activité imaginaire. Pas l'activité de pensée, mais l'imaginaire. À tel point que les enfants d'aujourd'hui, de notre fin, notre siècle, ont beaucoup de peine à la concentration. Tellement l'imagination est forte et s'étend. Parce que la pensée nous fait nous concentrer, alors que l'imaginaire nous fait nous étendre. Donc le premier moment où il y a quelque chose qui nous permet de dépasser l'image, c'est lorsque nous pensons et que nous exprimons cela par un langage qui signifie quelque chose. Et ce premier moment de la signification a un mode universel. C'est là où apparaît pour le premier moment que la connaissance intellectuelle, la pensée, touche, atteint quelque chose qui n'est plus visible. C'est pour ça que dernier livre de Merleau-Ponty, un livre posthume, du visible à l'invisible, note bien ce passage du sensible à au point de vue intelligible. L'intelligibilité, au-delà de la représentation, atteint par la signification quelque chose que je n'atteins pas par ma sensation. Je n'atteins jamais par la sensation la signification. Tandis que la représentation, là, je la touche. Premier moment, donc, c'est cette assimilation intentionnelle et universelle où mon intelligence conçoit en elle-même le point de vue. l'animal. Je peux dire l'homme. Alors, génétiquement, si je regarde l'aspect génétique de l'intelligence, je crois qu'on voit toujours que c'est le singulier qu'on atteint en premier lieu. Ce chat, papa, cet homme, et on confond tout avec cet homme, ce singulier. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très délicat de voir à quel moment je pense l'universel, à quel moment mon intelligence réfléchit sur l'universel. Parce que je ne connais l'universel que dans un état réflexif. Je ne le connais pas directement. Je constate tout de suite, et c'est une remarque très importante, je constate tout de suite que ma vie intellectuelle implique ce qu'il y a de tout à fait premier et qu'il faut maintenir comme ce qu'il y a de premier. C'est très curieux que Thomas d'Aquin instinctivement revient à ça, au-delà de la signification des mots. C'est que pour lui, la seconde opération, c'est un discernement par rapport au réel, par rapport à ceci est, et que c'est ceci est qui caractérise le point de vue de la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas l'assimilation, parce que celle-là est commune à toute ma vie. Ma vie assimile. Alors il y a une assimilation sensible, il y a une assimilation intellectuelle, intelligible. Mais ce qui caractérise justement le propre de l'opération intellectuelle qui implique cette attitude réflexive, cette attitude de conscience qu'on peut avoir, c'est discerner. Discerner si ceci existe ou si ceci n'existe pas. Vous voyez, on retrouve le jugement d'existence comme discernement. Tandis que l'assimilation, on demeure dans une signification d'une réalité qui existe, puisque c'est à partir d'expérience que s'est fait cette assimilation. Mais l'assimilation touche non pas l'existé, parce que l'existé comme tel est inassimilable, mais touche ce qui est assimilable dans la réalité, sa quiddité, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la réalité de détermination propre, sa nature, l'intelligibilité de la réalité. Cette réalité a ce caractère propre d'être assimilable. Oui. Donc, on a ces deux moments caractérise la vie intellectuelle. Ce premier moment où j'accepte, où j'assimile, j'accepte de connaître cette détermination de la réalité qui est proche de moi, que j'expérimente. J'expérimente le ceci. Et le ceci peut-être n'importe quoi. Et puis, ensuite, ce discernement, ceci est, je touche la réalité existante. Et je touche la réalité existante dans un jugement. Je ne peux pas toucher la réalité existante dans l'assimilation. Et je crois que ça, c'est tout à fait élémentaire à ma vie intellectuelle. Si je veux comprendre génétiquement le développement de ma vie intellectuelle, il y a en premier lieu la continuité avec la réalité. Quand on assimile quelque chose, on est en continuité. Puisque l'assimilation implique toujours une certaine similitude entre ce qui est assimilé et celui qui assimile. Et lorsqu'il s'agit de ma vie intellectuelle, c'est bien l'aspect de la quiddité qui permet cette continuité et qui fait cette continuité. Et puis le second moment, le discernement. Ce que j'ai assimilé n'est pas moi. Si cette réalité existe, indépendamment de moi. Donc je m'écarte et je distingue, je sépare ce que j'ai assimilé et moi-même. Et je ne peux vraiment découvrir l'autre qu'à partir de là. Et c'est, je crois, ce qu'il y a de tout à fait possible. ces deux éléments. Appréhension, jugement. Voilà comment on peut les appeler. Appréhension et jugement. L'appréhension est vraiment ce qu'il y a d'élémentaire, de premier. C'est là où le déclic par rapport à la vie sensible, par rapport à la vie imaginaire, par rapport à l'imagination, se fait le mieux sentir. Quand je suis dans l'ordre de l'imaginaire, je représente. Je suis dans le domaine sensible, je me représente. Dès que je passe à une connaissance plus poussée, j'assimile. Et en assimilant, je me distingue de ce qui